vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Alors, il y a deux semaines, avec Cathy, nous sommes allés au Havre. Et le Havre, c'est un grand port. C'est un port magnifique. Moi, je suis né au Havre. Donc, c'est la plus belle ville de France, bien sûr. Et il y a de plus en plus de paquebots qui font escale pour visiter la Normandie. Parce que, bien sûr, la Normandie est magnifique. Donc, il y a plein de paquebots qui viennent faire escale au Havre. Et par exemple, l'autre fois, il y avait le Ruby Princesse. Donc voilà ce bateau, et vous voyez que ce bateau est immense, il est large, il est long, il est haut, il est énorme. Et vous voyez les tout petits bateaux qui sont minuscules à côté, on peut à peine les voir. Et alors l'avantage quand vous êtes sur un gros bateau comme ça, c'est que vous sentez pas beaucoup le mauvais temps. Vous ne sentez pas beaucoup les vagues, parce que bien sûr, il est bien stable. Il n'est pas ballotté de tous les côtés, comme un petit bateau. Bien sûr, le bateau est robuste, il va bien passer les vagues. Et du coup, on n'est pas déstabilisé. On est bien stable, on n'est pas déstabilisé, comme sur un petit bateau où là, on bouge dans tous les sens. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, l'avantage d'étudier la Bible, et l'avantage d'étudier le passage ici dans la lettre de Pierre, c'est de nous faire gagner en robustesse pour les jours où arrive la tempête, afin que nous ne soyons nous-mêmes pas déstabilisés, que nous ne soyons pas ballottés de tous les côtés sans repère. Alors Pierre ne parle pas ici de connaissances abstraites, mais de connaissances qui vont nous aider à passer les épreuves dans cette vie. Parce qu'on sait que lorsqu'on est préparé, on sait mieux comment réagir, et on sait mieux comment réagir quand on sait pourquoi des épreuves nous tombent dessus. Mais bien sûr, c'est difficile d'être lucide quand on est au milieu des épreuves, au milieu de la souffrance. On a du mal à prendre du recul dans ces situations-là. Et si vous êtes au milieu de souffrances ce matin, eh bien je prie que Dieu soit un réconfort pour votre cœur. Et je prie que ce passage vous encourage profondément au milieu des souffrances. Voyons le verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Alors, qu'est-ce que Pierre entend par le mot fournaise ici? Alors, dans le passage, on voit qu'il parle de souffrance. On voit plus précisément qu'il parle de souffrance du chrétien. Il parle de souffrance parce qu'on est chrétien dans ce passage. C'est ce qu'on voit au verset 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et en ce moment, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination pour réaliser la souffrance que traversent de nombreux chrétiens dans le monde. avec son lot de persécutions physiques allant jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, nous avions Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, c'est une association qui travaille parmi les chrétiens persécutés il y a 2 semaines et donc qui nous racontait donc, concrètement quelles sont les souffrances dans lesquelles passent ces chrétiens à travers ces épreuves dans les pays où les chrétiens subissent la persécution physique. Mais ici, en France, à la Garenne-Colombe, nous ne sommes pas exempts de fournaises non plus. Au verset 14, on voit que Pierre parle d'être insulté, moqué, à cause du nom du Christ. Et on peut être méprisé dans la rue parce qu'on est un disciple du Christ. On peut être moqué dans sa famille parce qu'on est un disciple du Christ. On peut être ringardisé au travail parce qu'on refuse d'entrer dans des combines pour tromper les clients. Parce que être disciple du Christ, cela va se voir dans ce qu'on dit et dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait au quotidien. Et peut-être est-ce qu'on va perdre son travail ou ne pas avoir de promotion à cause de cela. Et cela génère de la souffrance, bien sûr, au plus profond de nous, d'être dévalorisé dans le regard des autres. Et dans ce passage, donc, Pierre parle bien de cette souffrance parce qu'on est chrétien. Mais n'empêche, on ne comprend là toujours pas pourquoi Pierre utilise là spécifiquement cette image de fournaise. Il aurait bien pu utiliser d'autres images dans ce passage. Il se trouve que Pierre, il a déjà utilisé cette image plus tôt dans sa lettre, au chapitre 1. Et il a parlé là, au chapitre 1, de notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable, bien qu'éprouvée par le feu. Et cette image, c'est celle du creuset dans lequel l'artisan plonge ses métaux précieux pour les rendre plus purs. Il fait fondre l'or dans la fournaise, dans ce creuset, pour que le métal en ressorte plus précieux, pour y retirer les impuretés, pour pouvoir relever les impuretés et les retirer. Et donc, le métal qui va sortir de ce creuset va être plus pur, quelque part, il va être plus centré vers l'essentiel. Et Dieu, on voit que Dieu, dans ce passage, utilise les souffrances que l'on traverse en tant que chrétien dans l'objectif de purifier l'Église, dans l'objectif de raffiner son peuple. Et on voit donc que bien que l'objectif, c'est de purifier l'Église dans ce passage. Et donc, la première chose que nous demande l'apôtre, c'est de ne pas être surpris par ses souffrances, parce que c'est une marque d'authenticité du chrétien. C'est une marque de la vie chrétienne. Et c'est curieux, parce que la première chose qu'il nous demande, ce n'est pas d'en souffrir, mais c'est de s'en réjouir. Et c'est quand même extraordinaire. Non seulement de ne pas être étonné, mais de s'en réjouir. Alors pourquoi ? On voit au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. » Alors, c'est bientôt les vacances. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un moment délicieux quand je pense aux vacances à venir. Et notamment quand je suis au milieu des embouteillages parisiens. Quand je suis au milieu des grèves sur le quai à attendre le train. Quand je suis au milieu des tracasseries au travail, je pense à ce temps de vacances. Et là, je suis dans la joie. Et quand vous pensez à vos vacances, peut-être que le voisin dans le train vous voit esquisser tout d'un coup un sourire et s'étonne de vous voir vous réjouir dans cette morne journée. Et Pierre nous appelle ici à nous réjouir d'avance pour le temps à venir, à être dans la joie pour la joie à venir. Tout comme on peut être dans la joie dans la préparation d'un mariage ou dans la préparation d'une naissance. On se réjouit d'avance de la joie à venir. Et si nous suivons la voie du Christ dans notre comportement, si nous sommes fidèles au Christ dans nos paroles et dans nos actes, lui qui n'avait pas de ruse dans sa bouche, lui qui ne rendait pas l'insulte, lui qui, quand il souffrait, ne proférait pas de menaces. Si nous suivons la voie du Christ dans notre comportement, c'est un signe qu'en union avec lui, qu'en union avec Christ, nous le suivrons aussi dans sa gloire. Nous assisterons à sa gloire. Nous partagerons sa gloire pour l'éternité. Et il y a une cette conséquence de souffrance suivie de cette gloire pour notre maître Jésus-Christ. Il y a une séquence ici qui commence donc par les souffrances et qui sont suivies de la gloire, comme notre maître Jésus-Christ a commencé par les souffrances suivies de la gloire. Et nous-mêmes, nous reproduisons cette séquence de la souffrance dans la vie présente qui est suivie de la gloire à venir quand nous sommes fidèles à Christ. Comme nous l'avons dit, le fait de souffrir pour le nom de Christ est un signe d'authenticité dans notre vie chrétienne. Et si nous sommes fidèles à lui, les insultes et le mépris viendront. Tout comme lui a subi les insultes et le mépris. Et on voit là que Pierre veut nous placer dans la perspective de l'éternité. Il veut nous faire changer de perspective. Les souffrances de la vie présente sont bien peu de choses par rapport à la gloire à venir. Et notre vie présente sur terre est bien peu de temps par rapport à l'éternité. Et Pierre répète cela au début et à la fin de sa lettre, ce n'est pas une coïncidence. Il nous dit « puisque vous avez à souffrir pour un peu de temps ». Il veut nous placer dans cette perspective de l'éternité dans sa lettre. Et donc nous placer dans cette perspective en voyant cette gloire à venir auprès de Christ. Cette gloire dans la révélation du nom du Christ. Donc il y a cette perspective de cette joie à venir, mais il y a également un encouragement et quelque chose qui vient pour la vie présente également. C'est ce qu'on voit au verset 14. Verset 14. Si vous êtes insulté à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est ce même Esprit-là qui est descendu sur le Christ lors de son baptême, qui est descendu sur le Christ pour attester de sa divinité, pour attester qu'il était bien le Fils de Dieu. Et c'est ce même Esprit qui descend sur nous pour nous attester que nous sommes bien les enfants de Dieu, du Dieu vivant, que nous sommes bien en paix avec lui, assurés d'être dans sa présence à jamais. Et c'est ce même Esprit qui fait dire à un chrétien d'Afghanistan, comme je l'ai lu dans un article cette semaine, un chrétien qui est à Kaboul et qui fuit sa famille, qui se terre, qui se cache, car il est poursuivi parce qu'il s'est converti à la foi chrétienne et sa famille l'a découvert. Et donc il y a des membres de sa famille qui le poursuivent pour le tuer parce qu'il est un apostat. Et le voilà donc qui va de cachette en cachette pour fuir ses assassins, se terrer jour et nuit. Mais voilà comment il exprime cela. Mon corps est comme en prison. Mon corps est comme en prison, mais mon âme est libre. L'Esprit nous atteste que nous sommes libres, que nous sommes en paix avec notre Créateur. L'Esprit Saint nous console au milieu des souffrances. Et de même, un frère de cette église qui a eu à subir la prison alors qu'il était innocent et qui avait même le risque, un risque pesait vraiment sur sa vie, il risquait de mourir, d'être assassiné. Et voilà ce qu'il disait de ce temps qu'il a vécu en prison. Il dit à quel point il a ressenti cette paix surnaturelle, cette paix que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Et donc, Pierre, ici, nous exhorte à avoir la joie en pensant à la gloire à venir et à avoir cette assurance qui est, que donne l'Esprit Saint dans ces moments de souffrance, l'assurance d'être en paix avec lui. Et on voit ensuite que face à la souffrance, Paul nous exhorte à ne pas avoir honte et à glorifier Dieu. Voilà, alors je suis un peu en retard, c'est le 2. Voilà. Et c'est sûr que quand nous sommes insultés pour le nom du Christ, notre réaction naturelle, c'est la honte. Et d'ailleurs, bien souvent, nous n'osons même pas témoigner du Christ parce que nous ne voulons pas avoir honte. Ce n'est pas agréable comme sentiment. Nous ne voulons pas avoir ce sentiment d'être dévalué dans les yeux des autres. Et comme disait Trevor la dernière fois, nous avons plutôt envie d'être likés, d'avoir plein de likes sur notre page Facebook. Nous avons envie d'être approuvés par les autres, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est thumbs up hein, pour nous. Nous avons envie d'être approuvés. Mais pourtant, en même temps, nous admirons certainement les héros qui savent se sacrifier pour les autres. Et nous admirons les héros qui sont capables d'encaisser le mépris eux-mêmes pour le bien des autres, en vue du bien de tous. Il y a par exemple un film que j'aime bien, c'est Batman. Et quelquefois, on peut apprendre plein de choses des super-héros. Et donc, c'est dans Batman, le film, c'est Dark Knight. Et le film se termine ainsi. Après avoir sauvé la ville, après avoir échappé à tous les traquenards, eh bien, le héros peut enfin souffler. Mais pourtant, voilà que se présente devant lui une ultime épreuve. Et le héros, voilà, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Il doit accepter d'endosser sur lui la culpabilité de plusieurs meurtres qu'il n'a pas commis. Et cela, de nouveau, pour sauver ultimement la ville. Il doit accepter d'endosser sur lui la culpabilité de plusieurs meurtres qu'il n'a pas commis. Et donc, la ville entière va le considérer, finalement, avec mépris, comme un assassin. Il va être pourchassé comme un brigand. Alors qu'au fond, il a accepté de prendre sur lui cette image méprisable pour sauver la ville et ses habitants. Et finalement, quelque part, nous aimons ce genre d'histoire. Nous aimons les héros qui prennent sur eux, qui acceptent d'endosser jusqu'à la honte et le mépris pour des fautes qu'ils n'ont pas commises et pour le bien des autres. Et or, nous connaissons le héros suprême, le héros qui a endossé le mépris suprême, qui a pris sur lui la honte, la culpabilité de nos fautes pour que nous soyons guéris. Et c'est ce que nous lisons déjà bien avant Jésus-Christ, dans les prophètes, donc qui annoncent la venue du Christ. Nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Mais en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous n'avons pas à avoir honte quand nous suivons les pas de notre maître. Quand nous sommes insultés pour le nom du Christ, nous sommes dans les pas de notre maître. Nous ne faisons que suivre les pas de notre héros. À une différence près, certainement, c'est que nous ne sommes pas appelés à nous substituer pour les fautes d'autres personnes. Ça, seul Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes sur la croix. Il s'est substitué au péché des hommes, prenant sur lui le châtiment qu'on mérite. Mais par contre, si nous sommes des disciples fidèles de Christ, un jour ou l'autre, nous allons subir le mépris comme lui a subi le mépris. Et cette épreuve, elle a du bon, comme on voit dans ce passage. Parce que le fait d'endosser ce mépris nous apprend à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur l'essentiel. Il nous permet de nous détacher du futile, de l'approbation des hommes qui ne dure pas. Parce que à quoi bon, après tout, chercher l'approbation des hommes pour quelque chose qui ne dure pas, pour quelque chose qui ne dure pas dans l'éternité? Mais par contre, il nous permet de nous concentrer sur l'approbation qui compte, sur la seule approbation qui compte, l'approbation de l'Éternel, l'approbation du Dieu créateur de l'univers, de toutes les choses qui nous entourent. Et c'est à lui que nous devons la gloire et l'honneur. Et le Créateur nous a créés pour cela, pour que nous lui rendions la gloire à lui seul, pour être en communion avec lui. Et c'est là notre véritable vocation en tant qu'homme. Et nous voyons donc là plus clairement le pourquoi de la souffrance. Mais le pourquoi de la souffrance, Pierre va continuer à l'expliquer dans les versets suivants, dans les versets 17 et 18. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Alors, le pourquoi de la souffrance ? On voit que Dieu a besoin d'agir sur nous pour nous changer. Et là, on va reprendre une nouvelle fois l'image du fondeur que nous avons déjà évoquée. La fournaise est là pour représenter donc le feu du fondeur. Le fondeur va faire fondre le métal dans le creuset pour le rendre plus pur. Parce qu'au départ, tout métal comme l'or va avoir des impuretés qui vont être nichées au plus profond du métal. Et seul le fait de le faire fondre dans la fournaise va permettre de le purifier, va permettre de rendre l'or plus pur. Et nous avons un Dieu juste, nous avons un Dieu qui a soif de justice. Et la manière qu'il a d'exercer son jugement sur ses enfants, c'est de nous passer par le creuset du fondeur. Et cela n'a pas pour but de nous détruire, au contraire, ça a pour but de nous faire du bien, de nous purifier, de nous rendre plus conformes à l'image de Dieu. Et pour vérifier que son or était pur, le fondeur se regardait dedans, comme dans un miroir. Et il savait que le métal était pur, quand ce métal reflétait parfaitement sa propre image. Alors le fondeur savait que ce processus pour purifier ce métal était arrivé à son terme. Il était pur parce qu'il reflétait l'image du fondeur. Et nous-mêmes, Dieu cherche à nous purifier pour nous rendre plus purs, pour nous rendre plus conformes à son image, pour refléter le Christ dans notre vie. Et pour cela, il s'agit donc de retirer les scories, les impuretés. Il s'agit de faire disparaître ce qui nous détourne du Christ, de faire disparaître les idoles de nos vies. Les idoles, c'est ce sur quoi on se repose, ce sur quoi on base notre assurance. Et ça peut être des bonnes choses à la base, mais c'est des choses qui ne durent pas et qui vont disparaître. Et donc, on ne doit pas se reposer sur elles ultimement, parce qu'elles vont disparaître. Et il y a des tas de choses qui peuvent être de fausses assurances dans notre vie. L'argent, le succès, le pouvoir, les loisirs, tout cela ne va pas durer. Et comme nous l'avons vu également, l'approbation des hommes ne va pas durer. Ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Et cette approbation, nous l'avons une fois pour toutes sur la croix, par le sacrifice de Jésus. Et si nous souffrons en tant que chrétiens dans cette vie, si nous passons par le creuset des épreuves, dans la douleur, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Comme on l'a dit, nous avons un Dieu de justice. Nous avons un Dieu qui ne peut supporter la présence du mal et qui exercera sa justice en jugeant les vivants et les morts. Et seule la croix, seul celui qui s'est substitué pour nous, peut nous sauver du jugement de Dieu. Et le dernier verset du passage est un très beau verset. Et c'est un verset qui résume très bien toute la lettre de Pierre, tout ce qu'on a déjà vu dans la lettre de Pierre. Et je lis au verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » Alors, au début, nous avons parlé de cette image hein, d'un grand paquebot et la nécessité d'être robuste dans la tempête pour ne pas être déstabilisé. Et il y aurait un moyen de mal comprendre cette image dans le fait de chercher soi-même les ressources en nous-mêmes pour être rendu plus robuste, finalement. Le message n'est pas « soyez plus robuste », mais le message est d'avouer notre faiblesse et de mettre notre confiance dans celui qui est robuste. Comme on le voit dans ce verset, nous avons affaire au Créateur tout-puissant de l'univers, de tout ce qui nous entoure, au Créateur de nous-mêmes, nous sommes sa création. Et il est tout-puissant, il est robuste à jamais. Mais nous le voyons, il n'est pas seulement tout-puissant, il est également fidèle. Il nous soutient dans les épreuves. Et il nous a prouvé sa fidélité sur la croix. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, nous savons, parce qu'il a déjà prouvé sa fidélité sur la croix. Il a porté nos péchés. Il connaît nos faiblesses au plus profond de lui-même. Il connaît l'abandon, parce qu'il a lui-même subi l'abandon suprême. Il connaît la solitude et lui seul donc vient à notre secours dans notre faiblesse. Et le message du christianisme n'est pas un message de force, mais un message de faiblesse. Il s'agit d'avouer nous-mêmes notre incapacité de nous en sortir par nous-mêmes. Au milieu des épreuves, il s'agit de renoncer à notre ego, de renoncer à notre prétention de pouvoir nous sortir des problèmes par nous-mêmes. Mais il s'agit de se reposer sur celui qui est tout-puissant, de se reposer sur celui qui non seulement est tout-puissant, mais qui est digne de confiance, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui ne nous n'abandonnera jamais. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne peut pas nous décevoir. Parce qu'il est fidèle. Il nous a prouvé cette fidélité. C'est lui la seule approbation qui compte. Et rendons donc à lui toute la gloire. Et je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Et je te prie que tu viennes au secours de ceux qui traversent des moments de souffrance, des moments de solitude, que tu sois leur soutien, que tu sois leur bouclier, que tu sois leur roc, que nous puissions avouer notre incapacité de nous sortir des épreuves par nous-mêmes. Mais Père, je te prie que nous apprenions à nous confier en toi, à nous reposer sur toi, à être fiers de toi, à mettre notre fierté dans celui qui a pris sur lui notre honte, notre misère, et à glorifier le nom de Jésus-Christ dans notre vie, en faisant le bien et en propageant cette merveilleuse nouvelle de l'Évangile du nom de Jésus-Christ. Te prions. Amen.